Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Bientôt la reprise du processus des pourparlers de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Confirmation du mandataire spécial du chef de l'État. Ce processus bénéficie d'un fonds spécial pour sa mise en œuvre, signale le professeur Serge Tshibangu, vous l'entendrez. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, exige du gouvernement, entre autres, de délocaliser la paie des enseignants des banques jugées irrégulières et de déguerpir les occupants des espaces scolaires. Ceci est contenu dans une déclaration faite hier devant la presse à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée des enseignants. Et puis, le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF vient de clôturer sa mission à Boga, en Ituri. Le général Camille Bombele est allé évaluer la quatrième phase des opérations conjointes en cours dans cette région contre les EDF. Pour en parler, nous recevons le colonel Mac Azukai, porte-parole de l'opération Uchuja. Mais avant de déballer ces titres, sachez que 3 personnes ont trouvé la mort et une dizaine d'autres blessées dans 2 accidents de circulation survenus aux petites heures de ce dimanche à Kinshasa. Le premier est survenu au croisement des avenues Boulevard du 30 juin et ex-24 novembre dans la commune de la Gombe et le second à la hauteur de l'aéroport international de Njili, commune de Massina. Selon les agents de l'ordre, ces 2 accidents ont été notamment causés par l'excès de vitesse, l'ivresse au volant et le manque de visibilité à la suite de la pluie qui s'est abattu cette nuit sur la ville de Kinshasa. Notez aussi que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est en visite de travail de 24 heures à Kinshasa depuis hier. Selon la cellule de communication présidentielle, il évoquera avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi des questions relatives à la coopération bilatérale, la paix et la sécurité sous-régionale, notamment à l'est de la RDC. La même source ajoute que la question sécuritaire dans le Maïndombe et ses conséquences humanitaires font partie des sujets abordés, particulièrement en ce qui concerne la situation des Kwamout et le déferlement forcé des populations de la RDC Angabe en République du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Le processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC va reprendre dans les prochains jours. Cette confirmation est du professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Dans une interview exclusive à Radio Okapi, le professeur Serge Tshibangu indique que ce processus des pourparlers, qui est élevé aujourd'hui au niveau d'une initiative régionale, bénéficie d'un fonds spécial pour sa mise en œuvre, fonds décidé par les chefs d'État lors du sommet ordinaire d'Arusha. On écoute le professeur Tshibangu au micro de Pierrot et Lamengi.
Vous savez, nous avions dû laisser un peu de temps à la facilitation kenyane de pouvoir organiser ces élections. Et en même temps, il y a eu d'autres étapes qui se sont rajoutées, comme par exemple le processus de Luanda, qui était décidé par les chefs d'État à Malabo, dans le cadre de la réunion extraordinaire de l'Union africaine. Il y avait des élections en Angola également. Donc, maintenant que ces étapes sont passées, nous sommes au niveau donc de pouvoir reprendre les activités liées donc au processus de Nairobi. Qui soit dit en passant, ce processus aujourd'hui est élevé au niveau d'une initiative régionale, donc de la communauté d'Afrique de l'Est. Ce que je peux vous dire aujourd'hui pour la suite, c'est que lors du sommet ordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est à Arusha, les chefs d'État avaient décidé d'ouvrir un compte spécial, un fonds spécial donc pour le processus de Nairobi. Et je peux vous dire que ce fonds spécial est déjà alimenté par certains partenaires bilatéraux, certains pays et même certains partenaires multilatéraux comme des organismes partenaires qui sont en train de soutenir donc ce fonds.
Le retard de paiement des enseignants par certaines banques, l'occupation illicite de certains sites dits scolaires par des particuliers, le non-fonctionnement des écoles comprises dans la cité de Bunagana au Nord Kivu, occupée par le M23 appuyé par le Rwanda, sont là entre autres des questions examinées par le syndicat des enseignants du Congo SIECO en marge de la célébration de la journée des enseignants. Dans une déclaration à la presse hier à Kinshasa, Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, recommande par exemple au gouvernement congolais de déguerpir les occupants des espaces scolaire, Cécile Chiombo, dans ses propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Les enseignants membres du SIECO exigent du gouvernement d'instruire au ministère de l'Urbanisme et Habitat de déguerpir sans délai les spoliateurs des espaces scolaires et d'ouvrir des enquêtes sur qui a vendu l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais et les rappels de l'ambassadeur congolais du Rwanda afin d'avoir le leadership attendu des enseignants pour la transformation de l'éducation à l'objectif du développement voulu. D'exiger au ministre de l'EPST, budget et finances de délocaliser la paie des enseignants des banques irrégulières dont EcoBank, Access Bank, Afriland Bank, Caritas, Ifod, etc. De réhabiliter. La CADECO est de créer une banque propre aux enseignants pour une meilleure prise en charge de leur salaire.
Sud Kivu, l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD en sigle, décide d'arrêter toute collaboration avec les services douaniers de Bukavu. La décision est contenue dans une déclaration rendue publique à Bukavu. Ces derniers accusent les responsables de la DGDA d'un dysfonctionnement avec violation des procédures dans le circuit de guichet unique. Explication Emmanuel Elamegi.
La décision des commissionnaires en douane de Bukavu est tombée jeudi 6 octobre dernier. Monsieur Nathan Bahala, président de l'association congolaise des commissionaires agréés en douane ACAD Sud Kivu, explique.
Si nous sommes arrivés à prendre cette décision d'observer un mouvement de grève, nous avons constaté qu'il y a violation des procédures des codes de douane dans les circuits du guichet unique au niveau de l'entrepôt de Bukavu. Et à part cela, l'attitude de certains animateurs de la DGDA vis-à-vis des déclarants en douane. Donc le mouvement de grève continue une période donnée sans déclaration dans le système jusqu'à ce que nous allons trouver compromis avec nos amis de la DGDA.
En réaction, un responsable de la DGDA Bukavu rejette cet argument des commissionnaires en douane. Selon lui, c'est un petit groupe des commissionnaires en douane qui s'agite suite à l'application stricte des mesures en matière de dédouanement de marchandises. L'absence de ces commissionnaires en douane dans les installations douanières ne perturberait en rien le déroulement des opérations régulières, ajoute-t-il. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
L'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, établissement public en charge de la planification, la conception des nouvelles villes et de la rénovation des villes existantes, prend davantage forme avec l'inauguration hier par le ministre Guy Loando de son siège social, avec comme autre mission le développement des territoires à travers la RDC. Cette structure à caractère administratif et technique fonctionne désormais au 11e étage de l'immeuble Crown Tonner sur l'avenue Batété, la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. D'après le ministre Guy Loando, deux projets d'infrastructure sont déjà en chantier. Billy Vandutumba nous en parle.
Ces deux premiers projets concernent la province de la Chuapa et celle du Sankuru. Guy Loando, ministre de l'aménagement du territoire.
A déjà conçu quelques projets tels que l'aéroport du Bouende dans la province de la Chuapa, dont les travaux seront lancés dans quelques jours, et la conception de Lumumba Ville, suivant les instructions données par son excellence sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Comme une réponse au besoin de changer des stratégies et des options du gouvernement pour réussir la vraie reconstruction de la RDC, d'autres projets d'envergure seront exécutés selon que les moyens financiers seront mis à disposition.
La ville pilote de Goma, l'installation d'une industrie de production de matériaux pour soutenir la reconstruction de la ville pilote et d'autres projets de construction au Nord Kivu, la conception d'une autoroute à péage pour relier des pôles urbains. La NAD a déjà conçu d'autres projets qui n'attendent que des moyens financiers, des projets qui tombent.
D'après le ministre de l'Aménagement du Territoire, la NAD comme établissement public fonctionnera en collaboration avec les ministères sectoriels concernés et les provinces.
Et puis, modernisation et non-spoliation des centres de recherche et instituts qui sont sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le secrétaire général de ce ministère a tenu une conférence de presse à ce sujet hier à Kinshasa. Les centres et instituts concernés sont entre autres l'Institut géographique du Congo, le Centre des recherches en sciences humaines, l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Pour Odon Dambou, il était question d'expliquer à la presse l'exécution de la décision de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars 2022, interdisant la vente des terrains des centres et instituts, mais plutôt de procéder au partenariat public-privé. Pour cela, le secrétaire général met en garde tous ceux qui tenteraient de les spolier. On écoute le secrétaire général Odon Dambou au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous voudrions vous expliciter par sa décision du 18 mars dernier. Le gouvernement congolais ne vend pas ni ne cède pas les terres mieux les concessions des centres instituts de recherche, mais plutôt les faits bouer, qu'il s'agit d'une simple location d'un espace de terre pour une durée déterminée. L'idée du gouvernement est d'aider à se moderniser, à se viabiliser grâce à leur patrimoine foncier presque inexploité par manque de moyens. Ces centres vont signer des contrats de location avec des investisseurs privés intéressés qui apporteront des capitaux pour construire sur les espaces boueux. Le contrat déterminera la période d'exploitation pour permettre à l'investisseur de récupérer son argent. Après les délais convenus, la bâtisse construite deviendra la propriété du centre ou de l'institut. Je répète que le partenariat public-privé voulu par le gouvernement pour la modernisation et la viabilisation des centres instituts de recherche et de l'université de la recherche scientifique n'est pas une vente de terres ni une cession quelconque.
Le surpeuplement des prisons au Congo central est l'une des conséquences de la lenteur observée dans les instances judiciaires. Déclaration du ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, 24 heures après l'évasion de plus de 200 détenus de la prison centrale de Matadi, Papi Mambolwamba estime que ce surpeuplement est aussi à la base des évasions à répétition que connaît la prison de Matadi. Selon lui, dans ce centre pénitentiaire, il y a plus des prévenus que des condamnés. Ceci impacte négativement sur la capacité d'hébergement de la prison et l'ensemble de la prise en charge des prisonniers. Il plaide également auprès non seulement de l'État, mais aussi des ONG de défense des droits de l'homme afin de venir en aide à la province en construisant des prisons plus sécurisées. Le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central s'exprime au micro de Nana Plurish Mambou.
À Samoulou-Amouanda, il y a des gens qui sont dans nos prisons sans jugement. Et sans jugement, la prise en charge pose problème, même par rapport à notre capacité de pouvoir héberger les détenus. Donc, du côté justice, et aussi doit nous aider à pouvoir rendre le jugement à temps. Soit vous êtes acquitté, soit vous êtes condamné. Si vous êtes condamné, que vous soyez notifié que vous êtes condamné, vous avez pris 20 ans, 15 ans de prison. Donc, il y avait un problème. Il y avait beaucoup de détenus au-delà de 600. Déjà, ça pose un problème pour les soins de santé, pour les rations, ça pose un problème. Mais à Songolo, il n'y a pas une prison viable. Ceux qui sont à Songolo, ce sont des volontaires, et moi j'appelle. Nous, ce sont des volontaires. Il y a aussi un problème dans cette histoire de prison. On doit avoir une politique claire. Comme nous avons décidé de problèmes avec les prisons qui existent, il faut envisager les constructions. Mais là, avec la province, ça peut poser un peu de problème. Ici, j'ai là, ça appelle auprès des ONG qui défendent les droits de l'homme. S'ils peuvent nous aider en tant que province, de pouvoir construire de nouvelles prisons pour permettre à ce que nos concitoyens qui sont condamnés, qui sont arrêtés, ils ont droit à la vie. Ils ont droit de se retrouver dans des endroits où, bien qu'il y ait tout un état dans les 4000, mais dans de bonnes conditions.
Renonwa Kananga, le gouverneur du Kasaï central, a fait un discours hier sur ses 100 jours passés à la tête de la province. John Kabea a cité une soixantaine d'actions menées dans l'objectif d'améliorer le vécu quotidien de la population. François Kadima nous en parle.
Du secteur politique, financier, social, infrastructurel, le gouverneur John Kabea et son équipe relèvent plusieurs réalisations. À son actif pour ses 100 jours, John Kabea évoque notamment la réouverture de la frontière entre l'Angola et la RDC au niveau de Kalambambouji, la signature du protocole d'accord entre le Kasaï central et le Beseko. Cet accord porte sur la réhabilitation de la voirie urbaine, la construction de la route Kananga-Kalambambouji et la réhabilitation des bâtiments institutionnels. Du côté social, le gouvernement Kabea indique avoir donné de l'éclairage public dans les communes de Katoka, Nganza et Ndesha pour réduire l'insécurité dans la ville de Kananga. L'amélioration de la desserte en énergie électrique qui est passée de 8h à 12h et la reprise régulière de la fourniture en eau potable par la régie des eaux pour les mêmes heures. Pour appuyer les secteurs agricole, un projet communautaire des 33 hectares de champs dans chaque secteur a été mis en place afin de lutter contre la pénurie de maïs au Kasaï central. Des défis que le gouverneur de province souligne avoir relevés et d'autres projets sont en cours d'exécution pour le bien-être de la population. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé samedi la tenue les 14 et 15 octobre en cours des assises nationales devant désigner un président de transition, ce avant l'organisation des élections en 2024 au Burkina Faso, miné par la violence djihadiste et théâtre de 2 coups d'État en 8 mois. Officiellement désigné président, le nouvel homme fort du Burkina Faso avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition, civil ou militaire, par des assises nationales.
L'invité.
Nous sommes en Ituri. Le général Camille Bombele Luanga, coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, a clôturé vendredi sa mission de 48 heures à Boga, centre situé à environ 120 km au sud-est de Bunia. C'était pour évaluer la quatrième phase des opérations conjointes en cours dans cette région contre les EDF. Que peut-on retenir de cette visite? Où en sommes-nous avec ces opérations? Le porte-parole de l'opération Uchuja, le colonel Mac Azukai, joint depuis Toro, une ville ougandaise à la frontière avec la RDC, répond à ces questions et à d'autres, à Martial Kizabiamungu.
Colonel Mark Azukai, bonjour. Les commandants des opérations conjointes FARDC, UPDF, étaient dans la région de Boga, d'Ituri, pendant 2 jours. Que peut-on retenir de cette visite?
C'était pour les mêmes motifs, hein? Voir comment les choses se passent, donc inspecter les troupes qui sont déployées dans cette partie du sud territoire de l'Ituri et harmoniser les relations de collaboration entre les deux armées, parce qu'il faudrait quand même que les gens parlent le même langage lorsqu'ils sont engagés côte à côte pour les opérations, et enfin suivre l'évolution de la quatrième phase. Chemin faisant, nous avons appris la bonne nouvelle, c'est la désignation ou la nomination carrément de notre partenaire, le commandant du contingent de l'UPDF qui vient d'être élevé au grade de lieutenant général. Il prend une nouvelle fonction, à savoir le commandement de la force terrestre de son pays.
Alors, où en sommes-nous avec les opérations conjointes dans le sud d'Irumu et dans les territoires de Mambasa, alors que les ADF continuent à terroriser la population? Peut-on parler d'un échec?
Nous ne travaillons pas pour notre satisfaction, nous travaillons pour la satisfaction de tout le monde, de la population surtout et d'abord. Parce que la mutualisation, la coalition a été créée pour pacifier la zone. Et lorsque ce n'est pas encore fait totalement, lorsqu'il y a encore des poches de résistance, nous ne pouvons pas nous dire, nous estimer satisfaits. Le jour où les gens vont commencer à circuler librement sur la route Mbaokamango, Beni, Kassindi, Luna, Komanda, pourquoi pas dans le territoire de Mambasa, c'est à ce moment-là qu'on nous dira que le travail est fait. Sinon, nous ne cherchons pas une autosatisfaction.
Colonel Mac Azukai, les ADF sont devenus très actifs sur la route Komanda-Mambasa, où ils tuent, incendient des maisons, des véhicules. Pourquoi ne pas orienter vos fusils vers ce côté-là pour mettre en déroute ces criminels?
Le rouleau compresseur de la coalition est en train de se dérouler petit à petit. Le travail se fait doucement, pour que lorsque nous serons déjà de ce côté-là, qu'il n'y ait pas d'autres soucis derrière nous. Voilà pourquoi nous allons petit à petit. Nous sommes préoccupés par le développement de la situation, de l'insécurité d'ailleurs, dans la partie de Mambasa. Et on ne peut quand même pas vous dire que demain ou après-demain, nous allons travailler de ce côté-là. Mais il y a aussi, après tout, les secrets militaires. Donc, nous sommes préoccupés par cette situation et nous y travaillons. Mais l'essentiel, c'est de consolider d'abord nos positions, consolider les positions conquises. Et le reste, on verra. Comme je l'ai toujours dit, notre premier ennemi, c'est Le temps et l'impatience de la population aussi. Évidemment, nous aussi, nous sommes impatients. Nous voudrions que les choses s'arrangent tout de suite. Malheureusement, le temps, il nous faut du temps. Voilà, ce sont les préalables.
Pour terminer, c'est quoi la suite des opérations conjointes dans les prochains jours? Pouvez-vous rassurer la population, comme vous l'avez fait d'ailleurs lors du début de ces opérations, que les ADF ne seront qu'un mauvais souvenir?
Vous savez, la paix ne se décrète pas. Nous travaillons, nous faisons des sacrifices. Nous ne pouvons pas promettre aux gens qu'au mois de décembre, il y aura ça, au mois de novembre. Sinon, on sera vraiment de vrais farceurs. Nous sommes en train de travailler et nous travaillons. Nous travaillons parce qu'il y a des sacrifices qui se font. Il n'y a pas longtemps, nos partenaires ont perdu 2 aéronefs. Ces 2 avions, ces 2 hélicoptères ne venaient pas faire du tourisme sur le territoire congolais. Hein. C'était des aéronefs qui étaient engagés au combat et qui sont tombés. C'est une perte, pas la moindre pour un pays comme le nôtre, donc un pays africain. Et aussi, nous avons seulement opté pour une discipline un peu compliquée, c'est de ne pas aussi parler trop de morts. Mais sachez que nous, avec nos partenaires, bien sûr, nous perdons des vies humaines, nous perdons des matériels, mais ce n'est pas ici le moment ou le lieu de raconter ces choses. Nous attendons la fin de la guerre et est-ce qu'il y aura une paix véritable où les gens vont commencer à circuler librement, en sécurité, ça sera là le vrai bilan.
Colonel Mac Azukai, merci.
Merci beaucoup.
Le porte-parole de l'opération Uchuja répondait aux questions de Martial Kiza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.